Gagner sa vie de Fabienne Ziatli. J'ai dit littérature. Ils ont répondu gestion, commerce. Pas assez doué pour la voie littéraire. Il aurait fallu redoubler, mais les parents ne veulent pas le redoublement puisque ce n'est pas obligé. Préparer le bac pour une fille d'ouvrier, c'est déjà bien. Et puis, gestion commerce, ça fait sérieux. On dirait presque un métier. Et je me laisse convaincre. Aimer lire Kerouac et Miller ne fait pas de moi une littéraire. Trop de fautes dans mes dissertations. C'est inscrit au stylo rouge dans la marge, des idées, certes, mais que des fautes. Ce mot de faute qui me fait honte et me rappelle d'où je viens. Le père et la mère qui parlent mal le français. Famille qui ne semble pas venir d'un pays, mais du plus profond de la mine où le grand-père poussait des wagons. La pauvreté est une punition et moi, je faute dans mes dissertations. Terminal G. 3. Un métier assuré après le bac. Secrétaire commercial pour une fille d'ouvrier, c'est déjà bien. Alors, j'essaie au début de faire bien, de travailler, d'écouter et de suivre, de faire commerce, de faire gestion. Mais dans la classe, tout semble vouloir se passer ailleurs qu'au tableau. Ailleurs que dans la bouche des enseignants qui souvent nous traitent de bons à rien parce qu'on ne s'intéresse pas à la vie des entreprises, à la façon de rédiger un courrier, aux subtilités de la comptabilité, de notre vie définitivement foutue si on persiste à mal faire. Et si certains élèves s'accrochent parce que ce serait bien quand même le bac à la fin de l'année, on est dans une classe de bons à rien. Chaque jour, un prof pour nous le rappeler, bon à rien, pour le graver dans nos têtes, pour nous le tatouer sur la peau. De leur soulagement à se convaincre que c'est de notre faute. Notre faute. Heureusement, l'époque incite au rêve et à la désobéissance. Il existe des lieux, des ailleurs, où l'on peut inventer du possible et on y croit. On se raconte les pays que l'on découvrira bientôt. On organise nos vies futures autour du mot « communauté ». On travaillera la terre. On vivra en autarcie. Un mot que l'on n'a pas peur de prononcer alors, « autarcie ». On veut autre chose que les courriers à taper, la comptabilité à tenir. On veut quelque chose qui ressemble au premier beau jour du printemps. Quelque chose qui fait trembler nos corps de l'intérieur et qui nous fera exister. Quelque chose comme dans les chansons de Léo Ferré ou Led Zeppelin. Quelque chose qui élève, emporte, accélère le sang. On n'en veut plus de nos culs mous sur la chaise. Et tous ces mots, plus grands que notre vie, ne trouvent pas leur place dans le contenu des cours. Et les profs nous en veulent de ne pas accepter ce qu'ils ont à nous donner, de ne pas être à la hauteur de leur savoir, nous, les élèves de la classe poubelle. Oui, c'est comme ça qu'ils disent. Classe poubelle. Pas tous les profs, mais tout de même. Alors, je me dis que je vais me tirer, que je vais partir en Inde ou alors quelque part dans le sud. Garder des chèvres. J'irai garder des chèvres dans les Cévennes. C'est ce que je dis à la prof de dactylo, qui nous apprend à taper sur le clavier sans regarder les doigts qui trouvent la bonne touche tout seul. Et la prof ne rit pas, ne dit pas que c'est idiot. Elle dit seulement « s'occuper des bêtes, c'est un métier difficile ». Elle dit son père agriculteur « les vaches tous les jours, pas de dimanche, un beau métier mais difficile ». Alors les chèvres, pas de dimanche non plus. Et je me dis que cette prof, dont j'ai oublié le nom, cette prof n'avait pas ri de mes rêves d'adolescente et qu'aussi elle m'avait appris la frappe, une des seules choses qui me soit encore utile aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Je crois qu'on peut remercier et applaudir encore une fois Françoise Ramon qui nous a offert cette introduction littéraire. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom du Musée des Confluences dans ce magnifique lieu qui n'est occupé que sur le bas mais qui s'élève encore sur toute sa hauteur. Je voudrais remercier toute l'équipe du GECO d'avoir associé le Musée des Confluences à cette table ronde que vous allez suivre ce matin. Et remercier aussi Françoise Benhamou qui a su inviter des professeurs qui vont nous faire découvrir des faces cachées des musées. Je vous souhaite une bonne matinée et je vous remercie.
Alors, merci. Merci pour cette parenthèse littéraire et puis merci surtout à Pascal Lemerrer pour cette incroyable efficacité pour organiser ces journées d'économie qui rassemblent tant de monde. Là, je vois qu'on est au complet dans cette salle et c'est assez émouvant pour nous qui travaillons sur la culture de se retrouver comme ça sur la scène de l'opéra. Malheureusement, aucun d'entre nous ne sait chanter, enfin à ma connaissance en tout cas. Alors, culture, arme, économique, évidemment le terme est un peu fort, hein. Il peut être entendu de diverses manières sur plusieurs registres. Peut-être au plan académique, la culture est un laboratoire d'idées, c'est un vivier pour réfléchir à des problématiques singulières parce que justement nous travaillons sur des biens singuliers, sur des biens prototypiques et qui présentent des caractéristiques qui sont fortes. J'en dirai peut-être quelques mots après avoir entendu Pierre-Michel Minguère qui est ici comme un témoin du dialogue que grâce à l'économie de la culture, on a institué entre la sociologie et l'économie, et qui nous parlera particulièrement du rapport entre l'État et le marché, de ce glissement progressif de la problématique qu'on appelle l'économie de la culture vers celle des industries créatives, et en allant vers là, peut-être est-on en train de faire entrer un cheval de Troie contre les politiques culturelles. On écoutera aussi donc Jean-Michel Tobelem, spécialiste de longue date des musées, qui nous parlera donc de l'évolution très récente des musées, de la manière dont ils s'inscrivent dans la modernité, en étant des musées d'un autre genre, sans doute devenus pour partie numériques et globalisés. Et puis Pierre-Jean Bengozy apportera un regard peut-être plus prospectif sur la nouvelle économie de la culture, et aussi sur la question des business models, comme on dit, qui se mettent en place aujourd'hui. Alors je donne la parole tout de suite à Pierre-Michel Minguère, en lui demandant peut-être de ne pas trop dépasser un quart d'heure ou un tout petit peu plus, pour qu'on ait un temps de dialogue, bien entendu, avec la salle. Merci.
Merci, bonjour à tous et à mes collègues. Je voudrais vous parler d'une trajectoire qui fait passer la culture d'une arme politique et sociale à une arme économique en quelque sorte, en retraçant la position variable selon les pays, mais avec une trajectoire assez similaire au bout du compte de la culture dans ce qu'a été l'État-providence. La culture a été dans le creuset de l'État-providence et qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut en dire alors que l'État-providence doit certainement trouver un deuxième souffle puisqu'il est sous des contraintes budgétaires croissantes. La culture a appartenu dès les années 50 au périmètre de l'État-providence avec l'éducation, la santé, la protection sociale. Et elle était considérée dès ce moment-là, dans les politiques nationales, comme un bien public à mieux diffuser, disséminer et partager. En quelque sorte, on savait bien qu'une élite sociale était la première consommatrice de ces biens, mais ils étaient supposés s'adresser à une communauté tout entière, et tout simplement parce que l'œuvre d'art et les biens culturels peuvent avoir, au moins en théorie, une valeur universelle. Et après tout, les musées et le transport à travers le temps de tout ça peut nous dire que c'est universel et peut-être éternel ou super durable. Les performances de démocratisation de ce schéma ont toujours été assez incertaines, d'abord parce qu'on n'avait pas de vrais critères, mais enfin, en revanche, la logique d'offre, c'est-à-dire constituer une offre culturelle, elle s'est développée très vigoureusement depuis les années 50, au plan national, puis au plan régional et local, dans les années 60 et 70, là, les différents pays européens se ressemblent beaucoup. C'était une politique d'offre qui, en quelque sorte, créait une économie subventionnaire de la culture. Et ce schéma-là s'est beaucoup transformé, ou du moins s'est fragmenté en Europe, quand a eu lieu le premier choc pétrolier et les premières crises après les 30 glorieuses, avec montée de chômage, réduction de dépenses dans certains pays. On a basculé d'une philosophie, disons, keynésienne. Après tout, Keynes était le premier... C'était le fondateur de l'Arts Council en Grande-Bretagne, on ne le sait pas toujours, qui ressemblait beaucoup dans ses principes à ce qu'a inventé Malraux en France. Et on a basculé dans une philosophie plus gestionnaire et utilitariste et libérale avec Thatcher et qui a pris la culture d'une autre manière. La culture doit savoir exhiber sa valeur économique. Si vous voulez que la collectivité publique confère à la culture une utilité sociale, elle doit aussi faire la preuve de son utilité économique. Et donc, il faut pouvoir mesurer l'impact sur le tourisme, le développement local, la régénération urbaine. Et si on le mesure, ça veut dire qu'on va aussi proportionner l'effort à la mesure exacte des effets. Et on introduit donc un principe de responsabilité et d'accountability, comme on dit, et aussi on a enjoint les équipements, les programmes culturels, les institutions et les artistes de diversifier leurs ressources et donc on ne considère plus qu'il y a en quelque sorte un périmètre public avec une ceinture protectrice contre le marché. Il y a évidemment un versant défensif et critique de ce recours à la rationalité économique pour piloter l'action publique, en tout cas dans certains pays et notamment en Grande-Bretagne, mais ça n'était pas le seul. D'une certaine manière, on a vu des évolutions qui commençaient à ressembler à celles-là en Europe du Nord, avec une philosophie sociale assez différente, mais aussi un principe de « je dois être responsable de mes investissements devant la collectivité ». Dans les arguments défensifs, il y avait des contraintes budgétaires qui pousse à revoir le sacro-saint partage entre le marchand et le non-marchand. D'autre part, il y avait ce principe d'accountability que j'ai évoqué, mais aussi l'idée qu'une économie subventionnaire a ses propres pathologies. Il y a une sédimentation des interventions, il y a parfois une perpétuation des avantages captés par des insiders dans un marché des subventions. Il y a des stratégies dans ce qu'on a appelé surqualité, les professionnels préfèrent créer plutôt que de diffuser leur création à un certain stade. Et il peut y avoir une trop faible légitimité des tentatives d'évaluation, car les objectifs sont souvent imprécis ou inaccessibles. Tels sont les arguments d'une philosophie différente de l'intervention publique quand on est, comme l'a été le tournant libéral en Grande-Bretagne, sous contrainte budgétaire et qu'on a dit arme culturelle, la culture arme sociale, certes, mais aussi arme économique, mais il faut voir comment allons-nous faire. Et d'où des contrats de performance, des injonctions à la diversification de ressources et à la réduction des coûts, et des mises en concurrence sous le critère de l'excellence. Si vous avez l'oreille assez fine, vous retrouverez ce genre de thématiques beaucoup aujourd'hui en Europe, mais je vais vous montrer par quel chemin on y arrive aujourd'hui. Cette situation britannique, elle contrastait très fortement, parce qu'elle était sous contrainte budgétaire de réduction des dépenses publiques, elle contrastait beaucoup avec la situation française, que je peux prendre comme le pôle inverse, puisque au début des années 80 en France, il y a à l'inverse une abondance budgétaire pour la culture, le budget double, les collectivités locales s'engouffrent dans le processus et en quelque sorte accepte le pacte de culture, développement local, offre renforcée, c'est un combat pour le renforcement et la démultiplication de l'État-providence. Mais Donc on démultiplie, on renforce la politique d'offre, oui, mais en même temps on recentralise à certains égards en disant l'État crée cette politique de grands travaux parce qu'il a un œil sur un autre échiquier que l'échiquier de l'équilibre spatial d'un pays, il a un œil sur la compétitivité internationale et le prestige d'une nation. Donc l'arme, la culture est une arme économique dans un échiquier différent aussi quand il faut attirer la visibilité d'un pays, la renforcer, attirer des touristes, des cadres, des grandes entreprises internationales, etc., etc. L'écologie des pays est une écologie culturelle et économique en même temps. Mais d'une certaine manière, il y a aussi incorporation dans ce tournant de la politique dans les années 80, il y a une incorporation de l'argument économique. Après tout, c'est Jack Lang qui disait « culture et économie, même combat ». C'était peut-être une habileté rhétorique, mais ça a eu des effets beaucoup plus profonds au bout du compte, puisque sont mis en circulation des arguments du type quelles sont les retombées, quelles sont les externalités positives de l'investissement culturel public en termes de tourisme, de développement local, d'emploi, de rendement social du bien-être culturel, etc. Et donc, avec l'argument que, certes, on doit considérer la culture comme un bien public, mais on peut aussi considérer qu'elle s'inscrit tout simplement dans le budget de consommation des ménages, selon une loi célèbre qui dit qu'une fois que les besoins primaires sont satisfaits, eh bien, on va orienter ces dépenses de plus en plus vers des besoins secondaires et supérieurs, la santé, la mobilité spatiale, la culture, le savoir, et pas simplement la nourriture et le logement. Et donc, troisième point dans ce tournant des années 80 qui est symétrique et inverse du point de vue budgétaire, mais peut-être pas tellement du point de vue de la philosophie argumentative, on réincorpore des industries culturelles. Après tout, c'est Jack Lang aussi et la gauche qui a dit on ne peut plus faire une séparation ontologique entre la culture savante et les industries culturelles. Donc l'action publique prend acte en quelque sorte de l'effervescence des industries culturelles. Après tout, on y a vu des innovations dans la culture pop, le rock, la BD et bien d'autres choses. Et d'une certaine manière, le marché dans certains secteurs, comme les arts visuels et plastiques, pouvait illustrer un dynamisme contre l'inertie et le conservatisme d'un système académique. Donc, on revient sur une distinction classique qui était les industries culturelles, c'est la massification qui mérite que l'opprobre et la critique, et la culture savante, c'est ce qui doit faire objet de démocratisation. Les cartes sont redistribuées. Et donc, partout en Europe, d'ailleurs, c'est en quelque sorte au plan local que la politique culturelle prend ouvertement les couleurs qu'elle avait d'abord d'une politique sociale, d'une politique urbaine, d'une politique de développement économique et d'une politique éducative aussi, ou d'une contribution à la politique éducative. Et au plan des États, en fait, la situation qu'on peut analyser, c'est une situation à trois niveaux. L'action publique, elle est additive et sédimentaire. On additionne des choses, des programmes, des équipements, etc., les uns aux autres. Donc, la marge de manœuvre se réduit à fur et à mesure que les budgets augmentent, parce que le budget est consommé en gros à 90 ou 95% au début de l'année budgétaire. Il y a une grande inertie et dans ces politiques. Donc, il y a une autre dimension qui est la dimension économique internationale de la politique des États en matière de culture. J'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, il y a l'idée d'une culture industrielle qui peut peser très lourd dans les échanges commerciaux. Exemple, l'hégémonie américaine qui perdure encore dans certains secteurs, comme le cinéma ou l'audiovisuel, qui sont, rappelons-le, le deuxième, je pense, poste d'exportation des États-Unis. Mais dans ce paysage, l'offre patrimoniale elle-même a progressivement un poids grandissant quand le tourisme international est en expansion et incorpore la culture comme un facteur d'attractivité des pays, des régions et des villes. Les musées sont certainement, mais ça sera dit plus tard et mieux que par moi, la pierre angulaire du couplage entre action publique, action économique et cartographie des grands centres urbains à fort potentiel de développement. Enfin, il y a un aspect important dans cette redistribution des éléments de la relation entre politique, la société et l'économie culturelle, c'est la bataille des normes. Une partie du jeu culturel s'est jouée sur un échiquier qui est celui du GATT ou aujourd'hui de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et avec l'argument qu'il faut... Est-ce qu'on peut laisser jouer librement les lois du marché ? Non, il faut une écologie de la diversité culturelle qui est au secours, parfois aussi, il faut le dire, des batailles à tonalité protectionniste. Tout ça, c'est le paysage des années jusqu'à la fin des années 80. Et maintenant, il y a un acte 2 qui est celui des creative industries, qui est un vocabulaire qui s'est diffusé dans toute l'Europe et au-delà et dans le monde. J'étais au Japon il y a 2 mois et c'était exactement la même chose. On m'a présenté des villes créatives en me demandant de les visiter sous cet aspect-là. Enfin bon. Et alors, qu'est-ce que veut dire ce vocabulaire-là qui s'est diffusé, qui a l'air de réconcilier en quelque sorte créativité, industrie et culture dans un mixte d'économie, de social et de triomphe de l'intelligence et de l'inventivité. Les industries créatives, c'est d'abord une transformation même de la définition de la culture. On y inclut les arts savants, les arts populaires, l'industrie culturelle, le patrimoine culturel, mais aussi industriel, naturel. On va vers un élargissement anthropologique de la notion de culture. On le voit dans le pays qui a introduit l'idée d'être une creative nation, c'était les Australiens au début des années 90 et leur premier ministre travailliste. Il y avait 2 objectifs, c'était reconnaître le multiculturalisme et deuxièmement, promouvoir les industries créatives en les rapprochant d'une politique industrielle en faveur des TIC, des technologies d'information et de la communication. Et le flambeau est parti vers l'Angleterre, qui est à nouveau un pays intéressant. C'est Tony Blair qui, en 97, dit au fond, il y a 2 domaines de l'action culturelle. Il y a le patrimoine, enfin heritage, et puis il y a de l'autre côté les creative industries, TV, radio, cinéma, architecture, musique, art du spectacle, marché de l'art, mais aussi jeux vidéo, publicité, mode, design, logiciel, services informatiques, etc. Donc la culture, au fond, n'est plus un bien final de consommation dont il faudrait assurer un accès de façon équilibrée géographiquement et socialement, mais la culture incorpore de la créativité. C'est donc un secteur qui a des ressources valables pour l'économie entière. Telle est la philosophie, en quelque sorte. Le coefficient d'originalité et d'inventivité doit irriguer la société tout entière. Mais ces motifs-là, on les trouve en Angleterre, mais on va les trouver aussi aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Allemagne, en Pologne, où on parle de creative potential pour relooker, en quelque sorte, l'action publique et la diriger vers l'économie. Il y a dans cette transformation, il y a 3 motifs. D'une part, c'est une culture qui est assortie à des sociétés dont on dit aujourd'hui encore plus que le modèle de croissance repose sur ce qu'on appelle une croissance endogène, c'est-à-dire l'innovation technologique, l'élévation du capital scientifique et intellectuel d'un pays. Et en quelque sorte, la culture s'invite à ce banquet de la société de la connaissance. Mais c'est un produit qui est en même temps une production ou un secteur qui doit faire la preuve de sa viabilité également sur un marché, notamment en disposant d'un environnement de soutien public indispensable à la croissance de ces entreprises, à la formation de ces personnels, à la protection de ces sources de financement et aussi notamment la protection des revenus tirés de la propriété intellectuelle. Quand on débat aujourd'hui de la propriété intellectuelle, ça sera dit par d'autres mieux que moi tout à l'heure, on débat en fait de ce qu'est aujourd'hui la culture, de la viabilité de la culture dans des économies qui misent beaucoup sur l'immatériel, mais qui doivent d'une manière ou d'une autre rémunérer les petits soldats ou les grands soldats de l'immatériel et de l'inventivité. Si on ne les rémunère pas, le taux d'inventivité risque d'en prendre un méchant coup. Deuxièmement, c'est une conversion aux creative industries qui immerge la culture dans l'ensemble des politiques économiques et qui dit la culture n'est plus une evidence-free zone, c'est-à-dire un endroit où on n'a rien à mesurer, il suffit de laisser s'épanouir sans fleurs pour que tout aille bien. Il faut démontrer les performances économiques de ces creative industries et de la creative nation. Et donc, il faut évaluer le rendement économique, en quelque sorte, et social d'un investissement, de ce qu'on considère maintenant comme un investissement à l'échelle d'un pays entier. Donc, il faut des indicateurs de performance, il faut des comparaisons internationales, du benchmarking, quels sont les bons modèles, lesquels sont performants ou moins performants. Et il y a des classements internationaux, il y a toute une technologie d'indices qui est apparue. Est-ce que ça contribue au PNB? Est-ce que les emplois là-dedans sont de qualité et de quantité suffisantes ou améliorables? Quelles sont les entreprises, leurs caractéristiques et leur degré de compétitivité? Tout ça est mis en circulation. Il faut aussi mesurer l'effet de levier, mais cette fois-ci beaucoup plus sérieusement, de l'offre culturelle sur le tourisme ou sur la régénération urbaine. C'est très intéressant de regarder, de ce point de vue, toutes les opérations de réhabilitation, de rénovation de quartiers urbains, de reconversion de sites qui ont eu lieu à travers toute l'Europe, sous ce label de la créativité, Amsterdam, Helsinki, Lodz, Barcelone, Lille, Marseille, etc. Bon, je ne vais pas plus loin. Il y a deuxièmement un argument de l'effet catalytique. Alors ça, c'est l'argument le plus spurious, le plus compliqué à documenter. L'effet catalytique de la créativité culturelle sur un pays. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Mais on cherche en quelque sorte des indices de créativité pour proposer une nouvelle écologie sociale en disant là où ça vibre et où c'est créatif, on vit mieux et on est plus productif. En quelque sorte, il y a un retour sur investissement, il y a une élévation de la productivité locale, régionale, si on a plus de, en quelque sorte, de sources de créativité ou de ferments de créativité. Et la culture ici est prise très sérieusement comme un secteur qui est au service de modèles, de nouveaux modèles de croissance soutenable. Enfin, il y a une troisième évolution qui est un des arguments de la politique des industries culturelles, c'était la consécration de valeurs clés du travail associées à la créativité. Flexibilité, adaptabilité, aptitude à ce qu'on appelle la pensée divergente, c'est-à-dire inventive, valorisation de la diversité dans les équipes. C'est un motif très important qui peut déboucher sur le multiculturel, mais pas seulement, enfin sur plusieurs dimensions. Mais comment fonctionnent les emplois et les marchés du travail qui valorisent de telles qualités? Eh bien là, il y a une forte disjonction des propriétés de ces marchés. Ce sont des marchés qui sont en croissance, c'est supérieur à la moyenne du tertiaire, et en même temps, la situation individuelle des actifs se dégrade. Alors qu'ils sont plus diplômés en moyenne qu'ailleurs, leurs rémunérations sont en moyenne inférieure, et elles sont en plus distribuées de manière incroyablement asymétrique. De 1/5 des gens ramassent 4/5 du travail et des revenus. On a affaire à des gens qui sont beaucoup plus multi-actifs qu'ailleurs. C'est un thème qui aujourd'hui, lui aussi, résonne beaucoup. On y valorise beaucoup l'autonomie, le self-employment, l'auto-entrepreneuriat, comme on dit aujourd'hui. On accorde beaucoup d'importance à la faible routine de l'activité, mais ça provoque aussi un risque de sous-emploi parce qu'il y a beaucoup de compétition inter-individuelle. Il y a certes une solidarité intra-professionnelle, mais par-dessus laquelle se construisent des compétitions inter-individuelles très fortes. Et il y a une assez grande sophistication de la gestion des risques de sous-activité. Autrement dit, les cultureux ou les culturels sont devenus des creative workers. Et ça, c'est un défi pour la politique sociale de l'État-providence, parce qu'on y combine des flexibilités positives, celles du travail par projet, par mission, par recombinaison de ressources, qui sont des facteurs d'inventivité, et une flexibilité précarisante qui est poussée là d'une manière assez extrême. Donc, au fond, aujourd'hui, les Creative Nations sont aussi des pays où, s'ils ont affaire à un État-providence, doivent se poser la question de est-ce que nous avons des modèles de flexi-sécurité qui sont assortis à ces Creative Nations, puisque le jeu classique dans le monde de la culture, c'est de reporter le risque sur le cœur de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le créateur. La question est comment le rémunérer dans un monde où la distribution de la visibilité est assez asymétrique, et très asymétrique, et où d'autre part, la rémunération du travail est elle-même rongée par des phénomènes de libre circulation des biens gratuits, téléchargés ou non illégalement, etc. Donc, je conclus en disant la culture, une arme économique, certes, mais aussi un bon laboratoire d'analyse et d'invention de nouvelles formes de travail, peut-être, et de combinaisons de ressources avec leur temps tension spectaculaire entre le pôle bien public, éventuellement poussé jusqu'à la limite de la gratuité, et de biens industriels, donc innovants et éligibles à la rémunération d'un monopole qui est lié à l'innovation, comme par le droit d'auteur. Ces questions sont évidemment beaucoup plus vives maintenant que les États et les collectivités locales sont sous des contraintes budgétaires extrêmement fortes. Merci.
Alors, merci beaucoup Pierre-Michel pour cet exposé remarquable comme toujours sur le glissement de la culture vers la créativité, sur ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire en grande partie le retrait de l'État au profit du marché et la montée donc des industries culturelles et même plus généralement créatives. Alors ça me permet de rebondir sur l'évolution des problématiques de l'économie de la culture, une évolution très forte ces dernières années et sur laquelle je voudrais vous donner peut-être quelques éléments. Alors peut-être d'entrée de jeu, une petite remarque, l'économie de la culture a été longtemps à la marge d'une économie bien sûr plus noble ou plus centrale en tout cas, du point de vue des économistes. Et depuis quelque temps, elle a pris beaucoup d'importance et on voit de nombreuses incursions d'économistes qui ne sont pas du tout spécialistes de la culture mais qui s'intéressent à tel ou tel aspect, soit des politiques culturelles, de l'évolution des industries culturelles, etc. Et c'est d'autant plus frappant que pendant des siècles, si je puis dire, les incursions des économistes dans le domaine de la culture ont été ponctuelles, avant tout guidée par une inclination pour les arts. Je pense à Adam Smith, à Keynes, qu'évoquait tout à l'heure Pierre-Michel. Si Keynes s'est intéressé à la culture de manière très marginale, d'ailleurs, alors que c'était un économiste hétérodoxe et qu'il aurait pu avoir cet intérêt pour une économie un peu spécifique, un peu particulière, s'il l'a fait, c'était dans le fond parce qu'il s'était marié avec une danseuse, qu'il avait été proche du groupe de Bloomsbury et qu'il était allé négocier la collection Degas à Paris, enfin dans l'achat de tableaux dans le cadre de la dispersion donc de la collection Degas. Il a aussi dirigé l'Arts Council. Mais en tant qu'économiste, il a très peu écrit sur la culture. Et pourtant, la culture est apparue comme un laboratoire d'idées pour la recherche, déjà d'ailleurs chez Adam Smith, qui a théorisé à sa façon le star system, évidemment sans employer le terme. On peut trouver chez Alfred Marshall bien plus tard bien sûr, une théorisation d'exception à la théorie de l'utilité marginale, qui est la théorie centrale des économistes qu'il va mettre en place et qui porte sur la consommation. Et Marshall sera le premier à expliquer qu'il y a des exceptions à cette théorie de l'utilité marginale, et parmi ces exceptions, il y a le goût pour la musique, il mettra en avant l'addiction. Et on retrouvera ça chez des économistes comme Baker et Stigler, qui sont extrêmement importants, des économistes qui écrivent dans les années 70 aux États-Unis et qui théoriseront à leur tour l'addiction pour la musique et pour la drogue. Donc on voit l'économie de la culture entrer ainsi comme par effraction dans une économie plus générale et avec toutes sortes de problématiques qui ont pu se développer. L'économie de la culture aujourd'hui prend d'autant plus d'importance qu'elle s'intéresse de longue date à des biens singuliers, pour reprendre une expression qui a été développée dans un très bon livre de Lucien Carpic, des biens singuliers pour lesquels les producteurs doivent faire face à une incertitude qui est extrêmement forte. Quand vous êtes producteur de films, vous en faites un, puis même s'il a marché, le suivant ne marchera pas. Peut-être pas, quelles que soient les recettes que vous allez mettre en place. Ce sera aussi le lieu de la théorisation de l'innovation, et Pierre-Michel en a très bien parlé, et avec la question des droits de propriété intellectuelle en arrière-fond, le droit d'auteur apparaissant comme une espèce de compromis, en quelque sorte, qui est destiné à mettre en place un monopole des auteurs sur la commercialisation de leurs œuvres, car une œuvre, dès lors qu'elle a été produite, n'importe qui peut se l'approprier. C'est toute la problématique qu'on rencontre aujourd'hui avec les débats sur la DOPI, etc. Et donc, en même temps, on va réfléchir au caractère qui doit être nécessairement temporaire de ce monopole. Doit-il durer 70 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut se rendre compte, par exemple, je vous donner un exemple qui est assez frappant. Prenez un auteur qui écrit un livre qui a 35 ans, qui meurt à 85, ça veut dire que le droit d'auteur sur son livre durera 50 ans, c'est-à-dire la durée de sa vie, plus 70 ans après la mort de l'auteur, c'est-à-dire 120 ans. 120 ans, c'est l'éternité à l'heure d'Internet. Et donc, il y a toute une série de questions qu'on peut se poser en tant qu'économiste et que l'on pose à ceux qui ont la charge de mettre en place ces droits d'auteur et de tenter, tant bien que mal, de les faire appliquer. Donc, une économie de la culture qui va s'intéresser à l'évolution des biens et à la manière dont ils peuvent être consommés dans un cadre qui est tout à fait nouveau aujourd'hui, sachant que les biens culturels sont ce qu'on appelle des biens d'expérience, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout à fait ce qu'ils sont tant qu'on ne les a pas consommés, et cela implique une place extrêmement forte de la question de l'information qui va prendre aussi bien la forme de la publicité comme pour d'autres industries, que de l'information produite par toutes sortes de prescripteurs et aujourd'hui toute une économie de la recommandation qui trouve à se développer sur les réseaux, sur Internet, sur le Web 2, etc. Voilà, donc on voit que toutes ces évolutions impliquent des glissements avec, me semble-t-il, un triple mouvement que Pierre-Michel a pour partie évoqué d'ailleurs. Trois grandes problématiques se développent aujourd'hui, enfin parmi d'autres d'ailleurs en économie de la culture. La première, c'est la problématique des retombées économiques, hein, qui est une problématique qui a tout un aspect social et politique. Pierre-Michel en a parlé, je rajouterai juste un ou deux points. La deuxième, c'est l'élargissement de fait d'ailleurs de l'économie de la culture à toutes sortes de domaines avec un brouillage des frontières. Et là aussi, j'essaierai d'être un peu complémentaire de ce que vient d'évoquer Pierre-Michel. Et enfin, toute la question de l'économie de l'Internet, dont le modèle obéit en large partie à des modèles économiques qui existent de longue date, hein, celui de l'audiovisuel notamment, mais avec toute une articulation entre la problématique des contenus et la problématique des matériels d'une part et des tuyaux d'autre part, dont on n'aura pas le temps évidemment de tout évoquer. Hein. Voilà, alors on voit bien qu'il y a des problématiques héritées du passé qui vont se conjuguer avec toutes sortes de questions que notamment le numérique impose de poser. Alors sur la question des retombées, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Pierre-Michel, il y a eu une grande vogue des retombées, de l'idée des retombées économiques de la culture, très grande vogue liée à la nécessité, parce que l'économie prenait le pas sur des problématiques plus culturelles, la nécessité de justifier notamment les demandes de subventions ou la nécessité pour les acteurs publics de justifier l'effort qu'ils avaient fait en faveur de la culture. Et il s'agissait donc de légitimer en fait la dépense publique à travers ces retombées. Cette vogue a eu aussi, à mon avis, de l'importance parce qu'elle a fait entrer le discours économique dans le champ culturel par une porte qui est finalement aisée à comprendre, dont tout le monde peut s'emparer et qui n'a pas un aspect impasse sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et pourtant, cette problématique des retombées, même les pouvoirs publics ont une relation un petit peu ambivalente avec elle. J'en donnerai un exemple. Je viens d'achever un rapport pour le Conseil d'analyse économique sur la question du patrimoine avec David Tesmar et le présentant devant le cabinet du Premier ministre, nous ont dit, mais attention, faites attention, on est assez content que vous soyez critique sur cette question des retombées, parce que si vous expliquez qu'il y a beaucoup de retombées, on risque de nous demander d'autant plus d'argent. Et donc on voit aussi une méfiance des pouvoirs publics par rapport à cela. Alors, cette problématique d'ailleurs des retombées est très critiquée par les économistes eux-mêmes, qui lui préfèrent peut-être la question des externalités de la culture, c'est-à-dire la culture comme élément de bien-être social, qui ne doit pas nécessairement se traduire en termes d'emploi, ou peut-être un peu en termes d'emploi, mais aussi sous d'autres formes. Alors le deuxième point sur le brouillage des frontières, je voudrais juste donner un exemple qui me semble particulièrement emblématique de ce qui se passe. Sur le spectacle vivant. Spectacle vivant a beaucoup souffert de l'économie d'une certaine manière parce que quand les premiers travaux qui ont eu beaucoup d'impact dans le milieu académique, si je puis dire, mais pas seulement dans le milieu académique, sur l'économie de la culture ont porté sur le spectacle vivant. Ça a été les travaux de William Bolmol aux États-Unis qui a théorisé à sa manière à la fois la spécificité de l'économie de la culture. J'ai pas le temps d'expliquer ce qu'il raconte. le risque du déclin et même l'inéluctabilité du déclin. Il parlera de la maladie des coûts. C'est même le seul économiste qui, désignant une activité dans ses aspects économiques, parlera de maladie. Hein, la maladie des coûts et, en creux, la nécessité d'un soutien qui peut être celui du mécène ou celui du mécène, enfin, mécène privé ou mécène public. Et donc, pendant longtemps, on a vécu dans cette problématique un peu déprimante, d'une certaine manière. Hein. Et on observe aujourd'hui une sorte de renversement qui a été mis en évidence par des économistes américains de Princeton au départ, Kruger et Connolly, et qui montrent très bien comment, en tout cas pour les artistes qui donnent des spectacles dans le domaine musical, leurs rémunérations deviennent de plus en plus importantes, leurs rémunérations venant du spectacle, et se substituent aux rémunérations qui viennent de la musique enregistrée pour tout. Les évidences qu'on connaît, c'est-à-dire la baisse des revenus induits par la musique enregistrée, ne serait-ce qu'à cause du piratage, mais pas seulement à cause de cela. Donc l'évolution des usages va entraîner ce renversement dans les rémunérations, et c'est intéressant parce qu'on voit qu'au plan économique, le spectacle vivant qui apparaissait comme la vitrine promotionnelle de l'industrie musicale devient le lieu où l'on peut générer des revenus, et on voit l'industrie du disque racheter massivement des salles de spectacle. Et puis d'autre part, au plan sociologique, ça nous dit aussi quelque chose. Alors que le numérique induit une individualisation des pratiques, il y a une resocialisation via le spectacle. Alors le troisième point sur le numérique proprement dit, et là je serai très rapide et je conclurai là-dessus, le numérique va... C'est un peu tout change, ça n'est pas comme dans Le Guépard, tout change pour que rien ne change. Là cette fois, c'est tout change parce que c'est vraiment tout l'univers des activités culturelles qui se transforme. Premier point, le numérique apporte quelque chose de très intéressant, ce que nous avons travaillé d'ailleurs avec Pierre-Jean, qui est à la fois on a plus que jamais du star system à travers le renforcement de la notoriété. Par exemple, si vous cliquez sur Google un nom quelconque, vous allez avoir des occurrences dans un certain ordre, et on a tendance à les prendre dans l'ordre où elles nous arrivent. Donc renforcement de la notoriété d'un côté, mais d'autre part des nouvelles possibilités pour les petits tirages, parce qu'on peut rassembler des publics dispersés, résurrection d'œuvres oubliées. Le numérique, c'est aussi ça. Donc c'est, pour reprendre l'expression de Derrida, à la fois un poison et un remède, un poison et un remède. Enfin, il reprend ça de Platon. Deuxième point, le numérique permet d'articuler le basculement des modèles anciens avec l'invention de nouveaux modèles, et Pierre-Jean en parlera. Moi, j'ai travaillé par exemple sur le numérique dans les industries de l'édition, et il est très frappant de voir que les éditeurs mettent pour l'instant, l'essentiel, en tout cas les éditeurs français, de leurs investissements dans la rétroconversion de leur catalogue, de leurs fonds pour les numériser. C'est une opération beaucoup plus compliquée que ce qu'on imagine, mais investissent extrêmement peu dans de nouveaux modèles de commercialisation et dans de nouveaux contenus enrichis grâce au numérique. Et perdent, me semble-t-il, prennent beaucoup de risques par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres pays. Donc on voit des besoins nouveaux de recherche-développement dans des industries culturelles qui étaient complètement rétives à la recherche-développement, qui savent franchement pas ce que c'est. Et ceux qui font du coup de la recherche-développement dans ces domaines, ce sont de nouveaux entrants venus des télécommunications ou des industries de l'informatique, Microsoft, Google, Orange, etc. Enfin, le numérique implique d'inventer de nouvelles régulations face à des défaillances de marché d'un nouveau type. D'ailleurs, on ne sait pas très bien de quel marché on parle, parce que d'habitude, nous économistes, un marché, c'est simple quand même. On a l'offre, on a la demande et on a un prix. Et avec le numérique, on a l'impression que tout vole en éclats, d'une certaine manière, puisque l'offre, c'est à peu près clair, mais le consommateur contribue à transformer l'offre et apparaît à sa manière comme un prescripteur et un producteur. Donc les filières se transforment complètement, et quant au prix, il est égal assez souvent à zéro, parce que nous sommes avec des biens qui sont infiniment reproductibles, et le prix chez l'économiste s'ajuste au coût marginal. Le coût marginal est égal à zéro. Donc on se retrouve avec du coup une régulation nouvelle à inventer, qu'il s'agisse de droits de propriété intellectuelle, d'accompagnement du consommateur pour lui apprendre, dans le fond, à s'emparer du numérique et à composer avec, qu'il s'agisse de la fiscalité. Et j'en donnerai une illustration qui est intéressante et qui montre bien dans quelle contradiction se trouve aujourd'hui l'économie culturelle. Par exemple, dans le domaine du livre, le livre papier a droit à un taux réduit de TVA parce que c'est un produit culturel. Donc 5,5% contre 19,6%, ce qui est quand même sympathique et assez normal. Il y a des pays d'ailleurs qui sont beaucoup moins enclins à la politique culturelle que nous et qui en tout cas font moins de bruit autour et qui ont un taux de 0% pour le livre. Et puis en même temps, le livre numérique, eh bien c'est 19,6%. Et pourquoi c'est 19,6%? Le taux plein donc, parce que le livre numérique, c'est pas un livre, c'est un téléchargement de service. Et on voit bien d'ailleurs comment à travers à la fois la fiscalité, la manière dont on désigne les biens et la manière dont on les traite, on voit bien comment la culture se banalise, hein, pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, et à la fois tout en prenant de l'importance, perd à la fois de sa spécificité et perd de sa légitimité par rapport à la politique culturelle, et c'est très frappant dans le champ du numérique. Et on voit aussi, par exemple, comment les corpus juridiques deviennent un peu inadaptés. Hein, je ne m'attarderai pas sur ces questions, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, avec la globalisation qui implique une meilleure articulation entre, par exemple, le droit américain et le droit européen, et c'est extrêmement difficile, d'où tous les contentieux qu'on a notamment avec Google. On pourra en discuter, et je crois qu'il y a des points vraiment intéressant qui se joue autour de cela. Bref, une inadaptation d'une certaine manière des règles et un besoin de mieux articuler le droit et l'économie. Alors, pour conclure rapidement, il me semble que, à travers ce panorama très très rapide, et j'en suis désolée, la culture a cessé, je dirais, d'être le domaine des professionnels de la culture. On voit bien que la culture sort de son domaine, si je puis dire, entre guillemets réservé jusqu'alors, et c'est très frappant maintenant quand on va à des colloques d'économie de la culture, on voit bien que ça, c'est très intéressant de voir que ce sont quand on a des professionnels, ce sont des professionnels venus d'ailleurs, si je puis dire, qui se mettent à s'intéresser à la culture, notamment au titre de sa créativité d'ailleurs. Donc de nouvelles entreprises, de nouveaux entrants, je l'évoquais tout à l'heure, et des chercheurs eux-mêmes en économie qui viennent aussi de nouveaux domaines, ce qui est extrêmement évidemment enrichissant. Cela veut dire qu'à la fois les frontières de l'économie de la culture se redéploient, et au même moment où les lieux de formation de la valeur, où la question de la monétisation des usages, etc., doivent être repensés. Merci.